16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre. Deux heures pour s'amuser de l'histoire autour de trois personnages hauts en couleur et en compagnie d'un garçon tout aussi coloré. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour, vous aussi vous êtes pittoresque dans votre genre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, chaque après-midi on les réunit, trois personnages qui n'auraient jamais pu se fréquenter vu qu'ils vivaient à des époques très éloignées, mais qui avaient toujours un point commun. Aujourd'hui Stéphane, réjouissez-vous, c'est quand même votre deuxième passion après le patrimoine, on va parler de blé. Le fric, c'est chic, vous avez raison Stéphane, nos personnages du jour ne vous contrediront pas, ils ont carrément créé des monnaies.
Absolument Mathieu, à commencer par l'ingénieux Crésus, qui a créé une monnaie de référence en or pur, de l'or venu d'un fleuve qui porte bien son nom, à moins que ça ne soit l'inverse, le pactole. Ouais. Et de l'or encore avec celui qui a inventé le louis d'or. Je vous raconte comment le roi Louis XIII a créé une monnaie qui s'est retrouvée dans les poches des Français, bon, les plus aisés, hein, uniquement. Quant à vous, Mathieu, vous avez enquêté sur l'un des faiseurs de monnaie les plus récents et les plus mystérieux de l'histoire, le créateur du Bitcoin.
Une enquête qui va évidemment nous emmener au Japon. Fascinant empire du soleil levant, où Satoshi Nakamoto a un jour, en 2009, inventé une monnaie numérique pour court-circuiter les banques. Au début, un bitcoin valait 30 centimes d'euros. Aujourd'hui, il en vaut plus de 45 000. J'espère, Stéphane, que votre conseiller Crédit Agricole vous avait poussé à investir à l'époque.
Non,
hélas. Qui est Satoshi Nakamoto, les amis? Existe-t-il vraiment d'ailleurs? Ou bien est-ce le nom choisi par un groupe de pionniers des crypto-monnaies? Réponse vers 17h20.
Et puis, ils sont des créateurs dans leur manière aussi. Avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Et bonjour messieurs, ah oui, créateur, là vous pouvez le dire, parce qu'il faut faire preuve d'imagination. Avec mon sujet du jour, je vais vous parler des bossus célèbres. Et oui, parce que vous savez, quand on dit toucher ma bosse, monseigneur, toucher la bosse d'un bossu, ça porte bonheur, ça permet de faire fortune. Donc j'ai voté pour vous.
Mais ça a un lien
vous.
Avec Lagardère aussi, non?
Exactement, mais je vais vous en parler également, bien sûr.
Donc c'est
tout
très
à
bien
l'heure.
Trouvé ce thème aujourd'hui.
Ah là vous êtes... Vous serez bien noté.
Avec petite prime, boss.
David Castello-Lopez, on remonte aux origines d'une invention de notre vie quotidienne. Et là ?
Tout à fait. Alors, c'est pas la vie quotidienne de tout le monde, mais c'est le test de Rorschach.
C'est quoi ça ?
Vous savez, ce texte qui consiste à montrer des images images abstraites et à essayer de dénicher les psychopathes pour que si vous y voyez des choses un peu bizarres, ça veut dire que vous êtes bizarre.
Vous-même,
J'ai vraiment beaucoup résumé.
Vous avez fait le test vous-même ou pas?
J'ai fait le test.
Vous avez vu des trucs chelous. Enfin, il est le bon vivant de la bande. Il est notre fournisseur officiel de fruits et légumes, de viande et poissons.
Et de cocaïne aussi.
Oui, mais ça chute. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour, moi j'y vois toujours une blanquette de veau, une côte de bœuf dans vos tests de machin truc là. Et ça me met en appétit.
Vrai, test de machin truc.
Et aujourd'hui j'y vois un fromage. J'y vois le Saint-Nectaire, un de mes fromages préférés.
C'est tellement bon.
Ah oui.
Quelle est la spécificité du Saint-Nectaire, Olivier Pouls? Je vous teste là-dessus. Il a une particularité. C'est le seul fromage qui...
Qui s'accorde bien avec les vins rouges, mais c'est moi qui vous l'ai appris.
Oui, mais ça, laissez-moi faire croire aux auditeurs que c'est moi qui le sais. Vous me l'avez appris un jour,
j'ai retenu. C'est vrai que c'est l'un des rares fromages qui s'accorde très bien avec les vins rouges, en tout cas qui ne les dénature pas.
Attendez, excusez-moi, la plupart des gens.
Oui, ils pensent le contraire.
Oui, ils pensent le contraire. Là, on va très loin dans la.
On ne boit que du vin rouge avec le fromage.
C'est une erreur. Parce que la grande majorité des fromages, vous savez, la protéine du lait ne s'accorde pas bien avec les tanins du vin rouge. Et souvent, il y a même quelque chose d'un peu désagréable qui se crée en bouche. Prenez un vin rouge avec un fromage bleu, par exemple un bleu d'Auvergne, ça marche pas du tout. Le camembert, c'est bien meilleur avec du cidre ou avec du vin blanc qu'avec du vin rouge, je vous le garantis.
Comme d'habitude, les activités ludiques ne seront pas oubliées, puisque cette saison, ce n'est pas un, mais deux quiz qui vous attendent. L'un sérieux, Burn to be Alive, avec de vraies questions d'histoire. L'autre, la lutte finale, plus loufoque, mais néanmoins sympathique. Ce sera respectivement à 5h moins le quart et 6h moins 10. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage à avoir fait de la monnaie. Mais enfin, je suis pas Crésus. Si lorsqu'on était enfant, nos parents n'étaient pas Crésus, lui, il l'est. Un homme aux poches pleines de pièces de monnaie d'or. Forcément, c'est lui qui les fabriquait. Stéphane Bern nous raconte gratuitement le destin de celui qui a eu cette riche idée, Crésus le vrai.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
L'histoire de Crésus, c'est celle d'un ambitieux qui naît en 569 avant notre ère en Lydie, un royaume d'Asie mineure situé au niveau de la mer Égée, devenu aujourd'hui une partie de la Turquie. Après la mort de son père, le roi Eliat, la Lydie se trouve face à un problème de succession, avec deux héritiers potentiels, Crésus et son demi-frère, Pantaléon. Crésus commence donc par le commencement, c'est-à-dire par trucider Pantaléon, et une fois solidement installé dans sa capitale à Sardes, il passe aux choses sérieuses. Comme son père, Crésus est bien décidé à étendre le territoire de la Lydie à l'est et à l'ouest. Bon, à l'ouest, c'est relativement facile. Il suffit de s'attaquer aux cités que les Grecs ont fondées sur les côtes d'Asie mineure comme Éphèse, Milet ou Phocée. Mais à l'est, c'est nettement plus compliqué. Crésus se retrouve face à Cyrus le Grand, le roi des Perses et premier souverain de la célèbre dynastie des Achéménides. Avant de se lancer dans ce genre d'aventure, forcément, on hésite un peu. Pour y voir plus clair, Crésus fait comme tout le monde à l'époque. Il part consulter la fameuse Pythie de Delphes. La suite, c'est le premier des historiens, Hérodote, qui le raconte. Crésus, roi des Lydiens, demanda à l'oracle s'il devait marcher contre les Perses. L'oracle lui prédit que s'il entreprenait la guerre, il détruirait un grand empire. Ce que Crésus a oublié, c'est que la Pythie est fameuse pour l'ambiguïté de ses réponses. Et ça ne rate pas. Le grand empire que va détruire Crésus en s'attaquant au grand Cyrus, ce n'est pas celui des Perses, mais bien le sien, la Lydie. En 546 avant notre ère, la ville de Sardes tombe et Crésus est parti pour passer un mauvais quart d'heure lorsque se produit un petit miracle. Si l'on en croit la légende, Crésus est sur le point de partir en fumée au sommet d'un bûcher quand une pluie torrentielle se met à tomber, au point d'étouffer les flammes. Le roi des Perses aurait été tellement impressionné par cette intervention des dieux qu'il décide d'épargner Crésus et d'en faire un conseiller de la capitale perse. Quant à la Lydie, elle devient une province du royaume de Cyrus. Mais avant de se faire humilier par le roi des Perses, Crésus avait tout de même eu le temps d'accomplir quelques actions dans son royaume. Et pour cause, il contrôlait un fleuve dont le nom devrait vous dire quelque chose, Mathieu, le Pactole. Ah oui. Et si l'expression « toucher le Pactole » est restée en français, ce n'est pas un hasard. Le fleuve en question était alors littéralement truffé de précieuses pépites qu'il ne restait plus qu'à ramasser pour s'assurer des revenus absolument énormes et devenir donc riche comme Crésus. Si le Pactole charrie du métal précieux à en croire les mythes grecs, c'est parce que le légendaire Midas s'y était lavé les mains. Ses mains qui transformaient tout ce qu'il touchait en or. Je ne sais pas si Crésus croyait lui-même à cette histoire, mais ça ne l'empêche pas de se dire qu'une fois assis sur un tas d'or, il faut en faire quelque chose. Il commence par faire reconstruire et agrandir le fameux temple d'Artémis à Éphèse, l'une des sept merveilles du monde antique. Après cela, il décide de noyer d'or et d'argent le sanctuaire de Delphes, peut-être pour s'assurer des bonnes grâces d'Apollon, le dieu qui inspire la Pythie. D'après Hérodote, qui a sans doute vu le trésor de ses yeux, il envoie à Delphes des coupes précieuses et des lits de bois rares recouverts de lames d'or, des tissus splendides teints de pourpre, une bonne centaine de lingots d'or, deux immenses vases d'or et d'argent pour mélanger l'eau et le vin, 40 barils d'argent pur, les bijoux de sa femme et l'énorme statue d'un lion, toujours en or. Tout cela en dit long sur l'immense fortune de Crésus, mais sa place dans l'histoire est loin de se limiter à ce rôle de mécène. Grâce à l'or du Pactole, Crésus a surtout mis en place l'une des premières monnaies du monde. La Créséide. Alors attention, Crésus n'a pas inventé les pièces de monnaie qu'on avait déjà commencé à utiliser en Lydie depuis une cinquantaine d'années pour faciliter le commerce. Avant elle, on passait par le troc pour échanger par exemple 50 poules contre un mouton. Mais ça, c'est pas très pratique parce qu'on voit mal comment payer sa miche de pain lorsqu'on a encore un mouton entier au bout de sa laisse, si vous voulez. La monnaie, c'est une réponse pratique à des problèmes pratiques. Grâce à une certaine quantité de métal précieux, on fabrique des petits jetons qui servent de référence commune. La vraie trouvaille de Crésus, ce n'est pas ça. Ce qu'il comprend, c'est qu'il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça pour répondre à la multiplication de monnaies très différentes les unes des autres. Sa Créséide, c'est un statère, des petites pièces ovales qui ont énormément d'avantages, ce qui permet de transporter des sommes considérables pour un minimum de volume. C'est très pratique, vous en conviendrez. Et puis, le travail des artisans dans les ateliers monétaires fait qu'elles ont toutes exactement le même poids, 14 grammes. Enfin, Crésus a une riche idée. Comme l'or est un métal tendre, on peut le frapper pour imprimer une forme identique sur chaque pièce. Sur une face, Crésus fait frapper chaque pièce avec ses deux animaux fétiches, le lion et le taureau. Sur l'autre face, on peut voir sa marque personnelle au poinçon qui ressemble à deux petits carrés côte à côte. Ce qui permet de certifier la pièce, de garantir sa provenance et sa valeur et donc de rassurer les marchands et les acheteurs. Ce qu'invente Crésus, ce n'est pas la monnaie, c'est une monnaie de référence en or pur, garantie par l'État. Crésus a inventé la monnaie en or pur, mais Hérodote raconte qu'il a aussi réalisé un joli tour de passe-passe avec une autre série de pièces qui circulaient déjà en Lydie avant le début de son règne, une monnaie un peu moins noble, celle-ci, faite d'un alliage d'or et d'argent qu'on appelle l'électrum. Ces pièces-là, un peu plus claires, valaient 13 fois moins que les pièces d'or, ce qui les rendait forcément plus courantes et donc plus accessibles. Mais si Crésus n'a pas inventé les pièces d'électrum en circulation, il a en revanche profité d'une découverte de ses métallurgistes pour aller plus loin. Avec l'or pur, il n'y a pas de secret, c'est de l'or pur. Mais l'électrum, on l'a dit, c'est un alliage d'or et d'argent. Et jusqu'au règne de Crésus, on se servait uniquement de celui qui se trouve à l'état naturel et qui se compose de 70% d'or et 30% d'argent. La nouveauté, c'est que c'est sous son règne que les artisans ont découvert un moyen de fabriquer de l'électrum artificiel. Mieux encore, ils ont constaté qu'il était possible de modifier la proportion d'or et d'argent de l'électrum. Et comme Crésus est malin, il a tout de suite compris comment il pouvait jouer avec cette belle trouvaille des artisans. Comme aujourd'hui, l'argent est un métal bien moins rare et donc bien moins cher que l'or, il suffit donc de passer à un mélange 55-45 au lieu de 70-30 pour que les pièces d'électrum deviennent bien moins chères à produire. Or, c'est exactement la proportion qu'on retrouve dans une partie des pièces fabriquées avec cet électrum artificiel. En passant de 70% à 55% d'or, Crésus réalise un gain de 15% dont il faut simplement déduire les frais de fabrication. Évidemment, c'est un peu risqué. Si les commerçants qui l'utilisent payent pour acheter un mélange d'or et d'argent qui n'est pas celui qu'ils croient, ils risquent de perdre confiance. Le risque, c'est soit de le voir utiliser une autre monnaie, soit d'augmenter leur prix pour compenser, donc de créer de l'inflation. Mais c'est tout l'intérêt des réformes de Crésus. En créant une monnaie en or pur à côté de la monnaie en électrum, le roi de Lydie maintient un très haut niveau de confiance avec d'un côté une pièce dont la valeur correspond au volume de métal précieux utilisé pour la fabriquer et de l'autre une monnaie qu'il peut modifier à sa guise. Ce sont d'ailleurs celles-ci qui se sont imposées. La pièce de 2 euros que vous avez dans votre poche ne contient pas pour 2 euros de métal. Mais tout le monde est tout de même d'accord pour dire qu'elle vaut 2 euros. Simplement parce que les banques centrales le garantissent.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Crésus, nous sommes avec l'historien Pierre-Olivier Auchard. Bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour.
Bonjour Pierre-Olivier Auchard, vous êtes historien, maître de conférences en histoire grecque à l'université de Tours et spécialiste en numismatique. Rappelez-nous justement ce qu'est la numismatique.
Alors, la numismatique, en fait, c'est la science qui étudie la monnaie en tant qu'objet, sous toutes ses formes, qu'elle soit métallique, qu'elle soit papier, la monnaie papier, et y compris, depuis récemment, la monnaie dématérialisée, comme le bitcoin, par exemple, même si ça pose évidemment de nouvelles problématiques dans l'étude des monnaies. Finalement, tout ce qui peut servir comme intermédiaire ou facilitateur des échanges concerne la numismatique. Donc en fait, la numismatique ne se limite pas à la pièce de monnaie, ce qu'on appelle plus techniquement la monnaie frappée et signée, qui a donc une marque. Même si c'est vrai que l'étude de ces monnaies-là, c'est ce qu'il y a de plus évident et de plus répandu dans la numismatique actuellement. Parce qu'à l'origine, le numismate, le spécialiste de numismatique, est un collectionneur. Pour se constituer une collection, il faut connaître la monnaie, il faut l'identifier, il faut avoir quelques connaissances. Et si les collectionneurs sont tous des numismates, tous les numismates ne sont pas nécessairement des collectionneurs. Voilà.
Et alors, ce qui est intéressant, la numismatique, ça nous raconte l'histoire. Tout simplement, pour revenir à notre Crésus, Stéphane l'expliquait, ce sont donc les Lydiens qui ont inventé la monnaie. Pourquoi ils se sont dit que l'échange de pièces faciliterait le commerce ? L'idée est géniale. Mais...
Alors, cette idée, effectivement, pour essayer de la comprendre, il faut avancer un tout petit peu dans le temps et regarder du côté d'Aristote, qui a un peu théorisé et mis, en fait, fixé un petit peu quelles étaient les trois fonctions de la monnaie, surtout dans le politique et un tout petit peu dans l'éthique à Nicomaque. Il dit que la monnaie, en fait, elle a trois fonctions, intermédiaire des échanges, unité de compte et réserve de valeur. Et dans l'idée de intermédiaire des échanges, donc le commerce, la monnaie frappée et signée, puisque c'est celle dont on parle, hein, celle de Crésus, pourrait être un outil de simplification des échanges, puisqu'elle évite les opérations de pesée, donc de vérification de la valeur de la monnaie en métal précieux, dans ce qui nous concerne, et de vérification, c'est-à-dire la qualité du métal, par tout un tas de procédés, le son, le toucher, hein, voire la malléabilité ou la couleur. Et donc, cette idée a certainement joué, facilité le commerce dans l'invention de la monnaie frappée, puisque avant cette invention, le métal devait être systématiquement pesé et la qualité du métal systématiquement vérifiée pour voilà, puisqu'il n'était pas garanti.
Au marché, on achetait des tomates, il fallait peser les tomates et il faisait peser les pièces aussi.
Bah, ou alors il fallait passer avant, faire certifier que le métal était de qualité. Voilà. Ouais. Donc c'était compliqué.
Même à Paris, vous aviez le pont au change, qui était le pont sur lequel, et ben, comme tout le monde arrivait avec ses monnaies, il n'y avait pas de monnaie commune, ben oui, il fallait vérifier avant de pouvoir procéder aux échanges.
Tout à fait, tout à fait. Donc, même si c'est évident qu'il y a eu une avancée, on va dire, technique et une avancée pratique qui est évidente, mais dans l'Antiquité en tout cas, hein, puisque là on parle de période antique, la facilitation des échanges et le commerce n'est certainement pas la première raison de cette invention. Pour des raisons, en fait, assez simple, c'est que, bah, comme vous l'avez rappelé dans le récit, ce sont des monnaies, même l'électrum, qui ont quand même une très forte valeur, 14 grammes d'or
ou
14
grammes. Voilà, c'est quand même pas mal. Ouais.
C'est pas rien, même pour l'électrum, donc pour les échanges commerciaux du quotidien, c'est pas simple. Mais à contrario, on sait que ces monnaies ont très peu circulé en dehors de Lydie. Donc en fait, pour le commerce international, qui pourrait être ça n'a pas tellement changé. Et ensuite, on sait que des États ont fonctionné pendant des siècles sans la monnaie. Et même après l'invention de cette monnaie frappée, toute une série de toute l'économie antique n'est pas entièrement monétarisée. Donc la monnaie était utile, certes, pratique, oui, mais pour les anciens, pas nécessairement indispensable.
Est-ce qu'il en existe encore ? Est-ce que vous en avez vu ?
Ah oui, on en a.
De dire le commun des mortels, vous êtes un spécialiste, mais est-ce que le commun des mortels peut, dans un musée, voir des...
Alors, dans un musée, quand elles sont exposées, mais sinon, les grandes collections publiques, la collection de la Bibliothèque nationale de France, par exemple, à Paris, qui a de très beaux exemplaires de Créséide, sont en ligne, les collections ont été numérisées avec photographies, et on peut aller sur le site de Gallica. Oui.
Stéphane le racontait, la petite révolution monétaire de Crésus, c'est quand même de faire circuler des pièces en métal pur. Qu'est-ce que ça change exactement, ça ?
Ça change que ça aborde une question qu'on oublie parfois quand on parle de monnaie frappée, c'est les aspects anthropologiques de la monnaie. Si là on passe un petit peu par le grec, hein, n'ayez pas peur, si on passe par le grec, monnaie se dit nomisma. Et ça vient du terme grec nomos, qui signifie la loi, le contrat et la convention. Finalement, qu'est-ce que c'est une monnaie frappée ? C'est un morceau de métal, rond, mais pas forcément, ça peut être ovale, qui a une estampille, donc une marque, identifiable, qui garantit le poids, c'est-à-dire la valeur, et le titre, c'est-à-dire la qualité du métal. Et quand vous avez un alliage comme l'électrum, qu'on appelle aussi l'or blanc, l'or blanc...
Ah bon, l'électrum, c'est l'or blanc ?
L'or blanc, bah oui, parce que si l'or est blanc, c'est parce qu'on y rajoute de l'argent.
Bien sûr, c'est
ça,
logique.
Ça rend le jaune plus pâle, donc de l'or blanc. Donc... comme vous l'avez dit, c'est difficile de vérifier aisément est-ce qu'on a 60-40 ou 55-45. La qualité de l'alliage est difficile à vérifier au quotidien. Alors que si vous avez un métal pur, c'est beaucoup plus simple de vérifier. De vérifier la qualité, s'il y a manipulation ou pas de l'alliage, à la couleur, puisque comme on vient de le dire, hein, l'or pur, c'est jaune, point. Et surtout au son. Parce que à l'alliage, le métal ne sonne pas de la même manière, d'où l'expression monnaie sonnante et trébuchante.
Le trébuchet, c'était ce qui permettait de...
Voilà, c'était pour la peser, puis c'était aussi pour le bruit que faisait la monnaie quand elle tintait. Et en fonction du métal, elle ne fait pas le même bruit. Et donc, finalement, passer au métal pur, ça permet d'instaurer plus facilement la confiance chez l'utilisateur et donc de faire accepter qu'on peut croire sans crainte au poids et au titre qu'on garantit. Parce que toute monnaie est fiduciaire, c'est-à-dire que elle est fondée sur la confiance en celui qui l'émet. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de monnaie.
Même à l'époque, peut-être, les États n'étaient pas suffisamment solides pour qu'on ait confiance dans l'État, donc il fallait qu'il y ait une valeur du métal. Aujourd'hui, on a confiance en l'État.
Voilà. Ou alors c'est un cercle vicieux ou vertueux. C'est-à-dire que pour instaurer la confiance, on garantit. Qui amène la confiance? Mais à l'inverse, si on commence à tricher sur la monnaie, on brise la confiance. Donc, on brise la confiance en l'émetteur. C'est quelque chose qui est très important parce que finalement, plus qu'un aspect économique, qui est important, hein, bien évidemment, on ne va pas le nier, la monnaie a encore aujourd'hui un aspect fondamentalement contractuel et politique, au sens anthropologique du terme. Mais elle a aussi, surtout, un rôle social très important. La monnaie n'est pas ce qu'elle fait. Il faut vraiment distinguer l'usage et l'objet. C'est deux choses différentes.
Mais ce qui est un peu triste dans cette histoire des monnaies créées par Crésus, le roi de Lydie, c'est que les Lydiens ont créé la monnaie, mais leur royaume a complètement disparu, puisqu'il a été mangé à la fois par Cyrus d'un côté, puis les Grecs de l'autre. Et ce sont les Perses et les Grecs qui ont adopté ensuite la monnaie.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que le bimétallisme qui a été inventé par Crésus, donc des monnaies d'or pur et d'argent pur, ça a été récupéré par les Perses, en particulier le roi Darius, le troisième roi de la dynastie achéménide, qui a fait ce qu'on appelle des dariques en or et des sicles en argent. Et justement, dans l'atelier de Sardes, tant qu'à faire, autant... On conserve les traditions.
De Lydie.
Voilà. Mais c'est les Grecs qui furent le plus séduits par cette invention. Et donc, c'est presque devenu une caractéristique sociale, culturelle pour les Grecs, parce que si on prend les Perses, ils n'ont frappé des monnaies que dans la partie occidentale de leur empire, celle qui était justement proche des Grecs. La partie orientale, la Babylonie, ce qu'on appelle les hautes satrapies, c'est-à-dire l'Afghanistan et le Pakistan actuels, il faut attendre l'arrivée des Grecs avec Alexandre le Grand et ses successeurs pour que la monnaie pénètre dans la région. Et donc on est 200 ans après Crésus, même plus que ça. Et pour un Babylonien, c'est pas évident d'utiliser ce moyen-là. C'est vraiment, ça va pas de soi. Donc vraiment, c'est pas neutre la monnaie. C'est vraiment attaché à une façon de concevoir une organisation politique et sociale, pas qu'économique.
Si Stéphane et moi, on décide de louer un petit Airbnb là-bas et qu'on va se baigner dans le fleuve le Pactole, est-ce qu'on a des chances, en creusant un petit peu, de trouver de l'or ou bien c'est fini?
Alors, vous pourrez en trouver maintenant, c'est fini déjà parce que la législation sur l'orpaillage a légèrement évolué depuis quelques temps. Voilà. Et puis, il y avait aussi des exploitations de mines dans la chaîne de montagne qui était au sud de Sardes et où il y avait des mines de métaux. Et c'est justement dans cette chaîne de montagne que le Pactole prend sa source pour ensuite couler par Sardes. Donc en fait, c'est par un phénomène de ruissellement et de sédimentation qu'il y avait des métaux dans le Pactole. Mais non, actuellement, si on y va, on ne trouvera personne avec son tamis à fouiller dans le lit de la rivière. Je suis désolé.
Dommage pour vous, Mathieu. Merci en tout cas, Pierre-Olivier Auchard. Je crois qu'on a été complet sur le sujet et c'est absolument passionnant. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires pour lesquelles elle bosse. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ça, c'est du lancement.
Aujourd'hui, Clémentine.
Vous avez mis du temps à la comprendre en plus.
Encore plus que d'habitude, puisque vous nous racontez le destin de bossu célèbre de l'histoire.
Oh, écoutez, je me suis penchée sur la question. C'est extraordinaire la place qu'occupent les bossus dans l'histoire, dans l'art, dans la littérature. Alors, on parle d'ailleurs familièrement de bossu, mais une bosse, qu'est-ce qu'une bosse? Le mot technique?
C'est une déformation.
Oui, mais le mot technique, c'est une gibbosité. Messieurs, une gibbosité avec deux B, s'il vous plaît. Gibbosité, difformité causée par une déviation de l'épine dorsale ou une saillie anormale de la cage thoracique provoquant une bosse. Alors, il y a des tas de bossus célèbres et dans tous les pays, par exemple en Italie, il y a Pulcinella. Oui. C'est la bossue italienne. En anglais, elle devient... Quel est le personnage du bossu? Vous le connaissez? C'est Punch. Punch. Vous connaissez Punch? Bon. Et chez nous,
c'est le bossu.
Et chez nous,
Punch et Pulcinella. C'est Polichinelle.
Ah, Polichinelle,
oui, bien sûr, Polichinelle. Bon, alors, parmi les bossus célèbres, Ésope, le grand Ésope, qui comptait parmi les sages de la Grèce, les empereurs romains, Antonin le Pieux et Galba étaient bossus, Pépin le Bref était bossu, figurez-vous. Et bien sûr, plus près de nous, un bossu célèbre, Scarron, le mari de Madame de Maintenon, qui lui-même se décrivait comme ayant la forme d'un Z. Et puis un homme très spirituel, un Anglais très spirituel, Pope, il était tout à fait bossu. Il y a évidemment dans les bossus inventés Triboulet, le fou du roi de France. Enfin, Triboulet existait, mais il y a plusieurs Triboulets. Il y a plusieurs Triboulets. Et puis, bien sûr, Quasimodo, le bossu de Notre-Dame de Paris. Alors, autre bossu célèbre, le roi Philippe V, Conti, frère du Grand Condé, le marquis de Coislin. Il y a une espèce de suspicion ancestrale vis-à-vis des bossus. On pense que les bossus seraient extrêmement fourbes et particulièrement intelligents et retors. Vous voyez le personnage de la fée Carabosse. En fait, Kara, c'est un mot turc qui veut dire boss, et donc qui veut dire noir, pardon.
Oui, sinon ça ferait boss-boss.
Oui, ça ferait boss-boss. Non, Kara, ça veut dire noir et boss. Kara, boss, c'est la méchante sorcière bossue. Et effectivement, au Moyen-Âge, cette difformité passait pour être l'œuvre du diable ou un signe de sorcellerie. Mais malgré ça, justement, l'idée était répandue que si on touchait la bosse, ça apportait bonheur parce que c'était faire acte de charité chrétienne, montrer qu'on ne se laissait pas dominer par la peur et donc ça portait bonheur. Et effectivement, la réplique la plus connue du film Le Bossu et du livre du Bossu d'abord,
de Paul Féval.
Alors, vous pouvez me le faire, toucher ma bosse.
Touchez ma bosse, monseigneur.
Touchez ma bosse, monseigneur.
Vous le faites parfaitement.
Hein, n'est-ce pas? Alors, pour le,
c'était Jean Marais, non qui...
C'était Jean Marais. Jean pour Marais, le personnage du Bossu, Féval est inspiré d'un homme qui a bien existé. Je ne sais pas si vous saviez ça, Stéphane. Ce Bossu s'appelait Bombario. Et il se postait rue Quincampoix, le siège de la Banque Générale qui commercialisait les actions de la Compagnie d'Orient. Et Bombario, il se postait là, rue Quincampoix, et il prêtait sa bosse à tous ceux qui voulaient un support porte-bonheur pour acheter ou vendre des actions. Et il va devenir extrêmement riche. Il sera bien l'un des seuls, d'ailleurs, parce que
c'est... À s'enrichir avec
cette histoire. Mais vous voyez, là, on voit cette scène dans le film de 59, de ces gens qui viennent signer un papier sur la bosse du personnage du film. Le film, d'ailleurs, fit un véritable triomphe à l'époque. 6 millions de spectateurs, juste après Ben-Hur, qui était quand même le succès, le plus grand succès de tous les temps à cette époque. Et la composition de Jean Marais alias Lagardère dans ce film est extraordinaire. Il avait dessiné lui-même les croquis de sa silhouette et les esquisses de son maquillage qui demandait 3 heures de préparation quand même pour faire de lui le bossu. Alors dans le bossu, il y a surtout quelque chose qui m'a toujours intriguée et en travaillant sur cette chronique, du coup, ça a été l'occasion d'aller farfouiller, c'est que le chevalier de Lagardère pratique en escrime une botte secrète.
Oui.
La botte, vous vous souvenez de son
bien
nom
sûr.
Non mais Mathieu,
si tu ne vas pas à la gardère,
voilà,
la botte elle-même,
c'est
la botte de Nevers
qui laisse une étoile sanglante entre les deux yeux. Alors elle est née, cette botte en escrime, dans l'imagination de Paul Féval en 1858, donc elle n'existait pas du tout, techniquement c'est impossible à faire. Mais aujourd'hui, le club d'escrime, le cercle Nevers Escrime, CNE, a relevé le défi et sous l'impulsion des maîtres d'armes Éric Grumier, père de Gauthier Grumier, champion d'Europe et vice-champion du monde à l'épée, et Alexandre Mire, qui lui s'occupe de la section d'escrime artistique, depuis quelques années, on enseigne à Nevers la célèbre botte de Nevers. Ça doit être très beau à voir. Et en effet, à côté de toucher ma bosse, souvenez-vous, d'abord, allez voir ce film qui n'a pas pris une ride.
Je ne suis pas sûr que ça n'ait pas pris une ride.
Vous trouvez que ça a pris une ride,
Moi, je trouve qu'il y a toujours un charme un peu désuet quand même de ce film.
Il y a des films qui ont beaucoup vieilli. Oui. Moi, je trouve que le bossu, ça passe.
Et voilà, on y est. Merci, Clémentine.
Merci beaucoup, Clémentine. Vous restez avec nous, évidemment, pour le quiz. Là, Stéphane, visiblement, vous n'avez pas touché beaucoup de bosses dernièrement. Hein, parce que
non,
beaucoup
mais
de défaites,
vous,
hein.
Avez, oui. Vous connaissez la botte de Nevers? Vous allez voir.
Intimidation, à tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Un jour, Stéphane, vous vous vengerez. Vous ferez licencier Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous vous arrangerez pour qu'elle ne touche aucune indemnité et vous la regarderez s'éloigner entre deux vigiles.
Avant d'être écartelée place de grève.
Oui, bon, n'allons pas trop loin non plus, Stéphane. Je sais que vous en avez marre qu'elle vous batte dans le quiz, mais quand même, restons humains et jouons à Bern to be alive. Reprenons les bonnes habitudes, Stéphane. Première question, elle est pour vous.
Un nom.
1945, le journal François organise un concours de bande dessinée. Un jeune de 18 ans s'inscrit et remporte la première place. Il décroche son premier contrat et crée son premier personnage. Il a un gros nez et boit de la potion magique. Le jeune homme, c'est Albert Uderzo. Vrai ou faux ?
En quelle année ?
1945.
C'est très plausible hein, comme histoire.
Ça me paraît vraiment vieux, 45.
Premier contrat, il avait 18 ans.
Il avait 18 ans.
18 ans.
Donc, ça coïncide avec les dates. Je dirais vrai.
Vous avez gagné.
Il est la mémoire de la bande dessinée française. Stéphane Bern, bonne réponse. Le personnage s'appelle Clopinard. Il a la vie éternelle grâce à une potion magique. Tout lien avec Obélix est une totale coïncidence. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Tortier-Kaltenbach. Un peu d'histoire. Il y a 47 000 ans, en Australie, c'était la fin du Pléistocène, comme vous le savez, la première époque géologique du Quaternaire. C'est à ce moment que l'on trouve les premières traces des premiers aborigènes. Aussi fou que ça puisse paraître, à cette époque, il n'y avait pas de kangourous. Vrai ou faux ? Les kangourous étaient-ils là avant les aborigènes en Australie ? C'est la question que je vous pose.
47 000 ans.
47 000 ans.
Il n'y aurait pas eu de... Ah. Alors attendez, parce qu'en Australie, ça voudrait dire que... Parce que 47 000 ans, c'est il y a très peu de temps, en fait. C'est hier que vous m'auriez dit il n'y avait pas de dinosaures. Oui, pas de kangourous. Comment serait-il venu après ? Il y a certaines espèces, par exemple les lapins, les chevaux, des moutons, des rats, qui sont des animaux qui ont voyagé à la faveur des voyages en caravelle ou des... mais alors les kangourous...
En 47 000,
alors, là, bah alors là, les kangourous, ça veut dire que les kangourous seraient arrivés après, amenés d'un autre continent qui serait quoi, la Nouvelle-Zélande ou ailleurs. S'il n'y avait pas de kangourous en Australie, en moins 47 000, ils seraient arrivés par la suite. Mais ils existaient forcément déjà. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas eu de kangourous... Est-ce que le kangourou a été implanté en Australie par la suite et serait venu ? Non, moi, ça me paraît curieux. Je réponds faux. Je pense qu'il y avait déjà des kangourous.
Vous avez gagné !
Heureusement, ce long raisonnement a accouché d'une bonne réponse. Faux. Non seulement il y en avait des kangourous, mais en plus, ils faisaient 2,7 mètres de haut. On appelle ce phénomène la mégafaune. On retrouve des animaux que l'on connaît aujourd'hui, mais avec des dimensions incroyables. Oula. On trouve également des varans longs de 8 mètres. Question numéro 3 pour vous, Stéphane, n'ayez pas peur, je suis là. J'aimerais m'adresser non pas à l'homme de médias, non pas Monsieur Patrimoine, fier de la France des clochers, mais à Stéphane l'anglophone, Stéphane le chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. Parlons du Oxford English Dictionary, le principal dictionnaire qui a été publié pour la première fois en 1884. Est-ce qu'il contient plus ou moins de mots que le Larousse ?
Je crois qu'hélas, l'anglais contient beaucoup plus de mots que le français, je le crains, oui.
N'écoutez pas. Ah non,
On dit que le français est une langue plus précise que l'anglais.
On le dit.
Oui.
On le dit.
Mais vous voyez, par exemple...
Tout l'enjeu de cette question.
Aimer en français, eh bien en anglais, c'est ou to love ou to like.
C'est vrai, déjà, il y en a deux pour un.
Il y en a deux pour un.
Deux pour
un. En français, tu peux dire
apprécier. Alors faisons tous les mots comme ça et on calcule.
Non, to appreciate.
C'est moi qui suis très, sur le papier extrêmement anglophobe. Il me semble avoir toujours entendu dire que la langue anglaise était bien plus riche que la nôtre. Donc j'ai cette idée en tête qui est peut-être fausse. Moi, je répondrai que c'est faux. Oui. Mais
la question ne vous est pas adressée. Elle est adressée à Stéphane.
Alors,
Est-ce qu'il y a plus de mots dans l'Oxford English Dictionary, le principal dictionnaire anglais?
Il y avait combien de pages il y avait ?
Je ne peux pas vous donner cette information. Sinon, vous pourriez trouver la réponse.
Ouais, trop facile.
Je dirais vrai.
Vous dites qu'il y a
plus de mots anglais que de mots français.
Oui.
Vous avez gagné.
C'est excellent answer.
Oh, thank
my
you,
dear Stéphane.
Je pourrais avoir un quart de point. Je t'ai dit sur ce
Larousse. Non, mais
je
comprends.
J'ai réfléchi moi-même. C'est en disant que pour le mot aimer.
Mon fils.
J'ai pas eu besoin de vous.
J'ai trouvé.
Quand même.
Bravo Stéphane.
Merci.
Moi je vous dis bravo. Mais le Larousse comprend...
Bravo.
Écoutez, parce que la différence est énorme. Le Larousse comprend 63 500 mots. L'Oxford English Dictionary en contient plus de 200 000.
Oui, ça fait une sacrée différence.
Sacrée différence. Question numéro 4 pour vous Clément.
Quand on voit ce que parle la planète entière maintenant, le globish...
Oui, mais ça c'est du globish, c'est pas de l'anglais.
Oui, c'est du globish, mais c'est tragique. Ça veut dire que cette langue aussi est en train de foutre
le camp. It is tragic. Nevertheless, continuons le quiz. 2002, on peut enfin toucher de ses propres mains des billets d'euros de la Banque européenne. Il y a 7 billets et 12 pays. Pour ne faire de peine à aucun pays, on décide d'y faire figurer des ponts imaginaires qui n'existent dans aucun pays. 10 ans plus tard, une ville des Pays-Bas décide de construire les ponts des billets, rien que pour nous embêter. Vrai ou faux ?
Oh, comme c'est rigolo ! Ah, c'est marrant, ça. Écoutez, ça me paraît curieux. D'abord, c'est encore... Qu'est-ce qui est allé chercher cette question tordue ? Ce ne sont pas des ponts qui sont particulièrement originaux, me semble-t-il. Ce sont des ponts avec des haubans un petit peu genre Tancarville. Ça n'a quand même rien d'extraordinaire. Donc, non, je réponds non.
Vous avez perdu.
Une victoire de Stéphane Bern. Le moment est historique. Dans
non,
le
non, pas exagéré.
Non,
ça
c'était
arrive
vrai.
Régulièrement.
Oui, c'est vrai. C'était vrai. La ville, c'est celle de... Attendez, 3, 2, 1... De Spichtnis. 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 Situé en Hollande méridionale, figurez-vous, en 2011, au-dessus d'un canal, il décide de construire tous les ponts de tous les billets européens qui, avant cela, n'avaient aucune existence.
Oui, mais c'est un genre de mât du Rodam, quoi. Ce sont des ponts en modèle réduit, non ?
Mais non, en modèle réduit, les Hollandais ont fait les choses en grand. Ils nous ont fait des ponts. Et en plus,
je vais aller regarder ça sur le champ. Oui, qu'est-ce que c'est que cette
sur le champ, bah, attendez, parce que le prochain train pour Rotterdam...
Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, le Thalys ne fonctionne pas très fort.
Je vais voir ça sur le champ.
Bon, et ben, je m'incline avec fair play devant mon vainqueur. Ben,
oui, heureux qu'elle accepte la défaite. Bravo Stéphane.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre et cet après-midi, on parle monnaie. Pas de ces 100 000 louis d'or que Stéphane a un jour retrouvé sur le chantier d'un vieux château en restauration et qui s'est discrètement mis dans la poche et qu'il a ensuite planqué Dieu sait où.
Dans la crypte de la basilique de Saint-Denis. Chut.
Mais de ces personnages de l'histoire qui ont carrément, eux, créé des monnaies, Stéphane.
Oui Mathieu, après Crésus, je vous raconte maintenant le destin d'un roi dont la politique monétaire a été extrêmement active, Louis XIII. De votre côté, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un créateur de monnaie plus contemporain.
Carrément contemporain, même puisque je partirai sur les traces de Satoshi Nakamoto. Vous ne connaissez pas Satoshi ? Ben alors, c'est normal, c'est un gars très discret. En revanche, il doit être aussi très riche, puisque c'est lui qui a inventé le Bitcoin. Qui se cache derrière ce patronyme énigmatique ? Sont-ils en fait plusieurs ? J'ai enquêté, et si vous êtes sage, à l'issue de ce portrait... Je vous distribuerai à tous 2 bitcoins. En photo mais, couleur.
Oui. Faut se souvenir du code. Hein. Sans oublier nos célèbres chroniqueurs, David Cassel-Lopez, qui remonte aux origines d'une invention.
Oui,
donc.
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est le test de Rorschach. Et c'est ce test qui consiste à montrer des dessins abstraits aux gens et en fonction de leur réponse, de voir ce qu'ils ont dans leur inconscient. Voilà.
Ah. Et si vous dites Rorschach après avoir mangé du Saint-Nectaire, tout le monde en profite, Olivier Pouls. Bah,
l'histoire d'un des meilleurs fromages de France, on peut le dire. Hein. Le Saint-Nectaire, j'ai une passion pour ce fromage d'Auvergne que j'adore. Je ne sais pas pourquoi, j'adore ça. Et je vous offrirai même une recette, vous verrez, un peu automnale avec du Saint-Nectaire.
Et puis il y aura, faut bien le dire, ce moment bizarre de l'émission où Stéphane présente son propre quiz, j'ai envie de dire son contre-quiz. Ça s'appelle la lutte finale et c'est une séquence qui pourrait être drôle si elle n'était pas odieusement truc F1 que je perde. Mais tout de suite, découvrons notre deuxième personnage du jour. J'ai gagné une fois, c'est vrai. C'est vrai, et c'est bien. Et c'est bien de le rappeler, Stéphane, vous avez raison. Découvrons d'abord notre deuxième personnage du jour qui aimait faire la monnaie. Mesdames et messieurs, le roi.
Bonjour.
Bonjour à
non,
tous.
Non, pas vous Stéphane. Vrai roi, Louis XIII. Le roi qui a inventé une monnaie en or qui porte son nom, le Louis. Stéphane Bern nous raconte Louis XIII, le roi grâce à qui certains s'en sont mis plein les poches.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Dès la fin de l'Empire romain, la monnaie est devenue un problème en Europe. Au fil du temps, toute une foule de pièces différentes a commencé à se mélanger dans les poches des heureux dépensiers. Rien qu'en France, on se retrouve avec une multitude de doubles deniers, de liards et de sols, dont les alliages n'arrêtent pas de changer. Il n'y a pas encore de monnaie papier, mais pour ce qu'on appellerait aujourd'hui les grosses coupures, on trouve le sou d'or,
restauré par Charlemagne, ou l'écu d'or, lancé au XIIIe siècle. Même pour les monnaies de grande valeur, celles qu'utilisent les nobles ou les grands négociants, c'est difficile de s'y retrouver. Il y a l'écu d'or, créé par Saint-Louis, ou le franc à cheval, qui date du règne de Jean de Le Bon, en 1360. Son drôle de nom s'explique par le fait qu'il est représenté dessus en chevalier en train de charger sur son destrier. Comme chaque royaume d'Europe émet ses propres monnaies et que toutes circulent au gré du commerce international, on compte, au début du XVIIe siècle, plus de 400 monnaies en circulation en France, venues des quatre coins du continent. Ce n'est pas facile de s'y retrouver, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on trouve toujours autant de rues au change aujourd'hui. C'est là que les voyageurs ou les commerçants pouvaient trouver toute une série de boutiques spécialisées dans l'évaluation de ces différentes monnaies. À la fin des années 1630, le règne de Louis XIII est déjà bien entamé lorsqu'on commence à prendre conscience de l'ampleur du problème. Entre la crise économique et cette masse de monnaies étrangères qui circulent dans le pays, la souveraineté monétaire française commence à se trouver compromise. Pour restaurer la confiance et pour rivaliser avec des devises prestigieuses comme la pistole espagnole, il faut une réforme et un symbole. Avec son principal ministre, le cardinal de Richelieu, le roi alors décide de frapper fort en créant une nouvelle monnaie de référence. Il va faire appel à deux hommes, le très expérimenté Claude de Bullion, surintendant des finances, grand serviteur de l'État devant l'Éternel et fin connaisseur des rouages de la politique monétaire, et l'homme qui va en assurer la réalisation technique, Jean Varin, un graveur né à Liège mais installé à Paris depuis 15 ans. Et rien, absolument rien n'est laissé au hasard, à commencer par le nom qu'il donne à cette nouvelle pièce, le louis. Le franc, l'écu, le douzain. Jusqu'alors, les monnaies de France ne portaient pas le nom du roi. En le baptisant de son propre prénom, Louis XIII envoie déjà un message fort au pays des années avant le fameux « L'État, c'est moi » de Louis XIV. La monnaie, c'est lui. Et c'est même tellement lui qu'on ne s'arrête pas au nom du roi. Côté pile, la pièce porte un symbole royal, une croix formée de quatre doubles L pour Louis, accompagné des fameuses fleurs de lys. Mais côté face, Jean Varin grave le visage même de Louis XIII, présenté de profil avec une couronne de laurier dans les cheveux, une référence évidente aux empereurs romains. Enfin, il ajoute deux formules, côté pile et en latin, et la devise royale « Christus regnat vincit imperat », autrement dit « Le Christ vint, règne et commande ». Côté face, et toujours en latin que je vous épargne, une phrase que l'on traduira par « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. » Pour assurer le prestige du nouveau Louis d'or, chaque détail compte, y compris la qualité de la fabrication. Et jusqu'ici, la frappe des monnaies était encore manuelle. Pour transformer en pièces chaque petite rondelle d'or brut, les artisans devaient user de coups de marteau. Chaque exemplaire était donc un peu différent des autres. Le mérite de Claude de Bullion et de Jean Varin, c'est d'avoir imposé une autre technique de fabrication mécanique grâce aux machines dernier cri installées dans les ateliers monétaires de Paris et de Lyon. Ce qui a permis non seulement d'obtenir des pièces strictement identiques les unes aux autres, mais de graver la tranche de la pièce et donc d'éviter que de petits malins ne s'amusent à en rogner ou à en limer discrètement le tour, histoire de gratter quelques parcelles de métal précieux. Pour les marchands et les négociants, c'est une bonne façon de s'assurer que la monnaie n'a pas été trafiquée. Sa qualité et son poids sont garantis, tout comme sa teneur en or, 91,7%, exactement la même proportion que celle de son grand concurrent, la pistole espagnole. Après cette phase de mise au point, le louis d'or naît officiellement par déclaration royale du 31 mars 1640. Nous devrions d'ailleurs plutôt dire les louis d'or, parce que 6 valeurs différentes sont mises en circulation. Le demi-louis, le louis, le double louis, le quadruple louis, l'octuple louis et le dix louis. Et pour vous donner une idée de ce qu'il représente en termes de pouvoir d'achat, Mathieu, on estime qu'un bon charpentier peut espérer gagner 24 louis par an. En réalité, les 3 premiers louis sont les seuls à être réellement utilisés. Le quadruple louis, l'octuple louis et le dix louis sont ce qu'on appelle des pièces de plaisir. On s'en sert uniquement pour faire un peu des pâtes et, selon une légende, pour parier des sommes folles à la table de jeu du roi. Louis XIII ne profitera pas longtemps du plaisir de voir circuler partout des pièces à son effigie. Et Claude de Bullion non plus. Le roi meurt en 1643 et son surintendant des finances encore plus tôt, en décembre 1640. Mais il aura tout de même eu le temps d'imaginer un stratagème original pour assurer la notoriété de la nouvelle monnaie, à en croire le célèbre Saint-Simon. Dès que les premières pièces sortent des ateliers monétaires, celui-ci raconte que Claude de Bullion pria 5 ou 6 amis à dîner et fit servir 5 ou 6 bassins remplis de cette nouvelle monnaie. Il leur dit d'en remplir leurs poches et leurs chausses, leurs chapeaux eux-mêmes s'ils voulaient, et que tout ce qu'ils pourraient emporter eux-mêmes était à eux. Pas un de la compagnie ne se fit prier, tous s'en fourrèrent tant qu'ils purent et s'en allèrent à grand-peine gagner leur carrosse, et trouvèrent n'avoir jamais fait si bonne chère. Évidemment, c'est un peu original pour lancer une nouvelle pièce, mais cela aura tout de même porté chance au louis d'or, qui va rester LA monnaie de référence pendant un siècle et demi, jusqu'à la Révolution française.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Louis XIII et de ses louis d'or, nous sommes avec l'historien Jérôme Jambu. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bonjour Jérôme Jambu, vous êtes historien, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Lille, mais vous êtes aussi ancien conservateur au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France. Pourriez-vous nous rappeler le contexte économique du Royaume de France quand on décide de mettre en circulation ses premiers louis d'or ?
Eh bien en fait, la situation est extrêmement difficile. Les caisses de l'État sont vides. Et le royaume est exsangue en raison notamment, surtout de la guerre que la France mène ouvertement contre l'Espagne depuis 1635. Richelieu a considérablement augmenté les impôts, la pression fiscale est énorme, les croquants se sont soulevés dans le sud-ouest, la révolte des nu-pieds vient d'être réprimée dans le sang en Normandie, donc on est dans une situation financière très, très tendue. En matière monétaire, comme vous le disiez, les pièces de monnaie, elles sont mauvaises. Elles sont très variées, elles sont de piètre qualité, notamment à cause du rognage, ce qui rend complexe et la récolte des impôts et le financement du conflit armé. Donc cette réforme qui crée les louis d'or, elle est à la fois financière, certes, économique, mais aussi politique.
Mais Jérôme Jambu, est-ce que Louis XIII, c'est vraiment le premier roi à avoir donné son nom à une monnaie ?
Eh bien non, pas tout à fait. En fait, c'est Henri II, presque un an plus tôt, qui a créé les premières pièces à son nom, qu'on appelle les Henri d'or.
Ah non.
Les Henri d'or en 1549. C'était des pièces, en fait, tout à fait similaires d'un point de vue iconographique au Louis d'or de Louis XIII, dans le sens où la croix n'était pas faite avec des L, mais avec les H de Henri. On pourrait dire que le Louis d'or de Louis XIII s'inspire du Henri d'or d'Henri II. Ce sont des pièces très esthétiques, elles aussi, qui ont eu un très grand succès dans le royaume au XVIe siècle.
Mais cet or qui a servi à fabriquer les louis, il venait d'où ? C'était un or hexagonal ?
Pas du tout. En fait, il vient un peu de partout. Dans un premier temps, il fut décidé de ne refondre que les pièces légères étrangères afin d'en nettoyer la circulation monétaire. Et puis ensuite l'ensemble des vieilles pièces frappées au marteau. Mais parmi ces pièces, c'est surtout l'Espagne qui est le premier fournisseur. Parce que non seulement l'Espagne était le premier producteur mondial d'or, grâce à ses mines américaines, mais c'était également le premier client de la France. Imaginez, en 1636, le trésor royal, 3 ans avant la réforme, était constitué de 90% de pistoles d'or espagnoles. Mmh. Et les louis ont été fabriqués, on l'estime, avec la fonte de l'or des louis, c'est 80% d'or espagnol. C'est vraiment, en fait, une étape de francisation du monnayage.
Et qu'est-ce qu'on sait exactement de Jean Varin, le graveur qui a réalisé le portrait du roi sur les pièces ?
Alors, sur ses origines et sur ses débuts, le personnage est assez obscur. Il est né au début du XVIIe siècle, dans une famille d'orfèvres et de monétaires de la région liégeoise. Et ce dont on est sûr, c'est qu'il s'installe à Paris vers 1625. Là, il est repéré pour ses qualités de graveur et même de sculpteur. Il est repéré par Richelieu. Richelieu admire son travail. Et Richelieu va lui donner la responsabilité pour faire ces nouveaux louis d'or.
Jérôme Jambu, je le racontais au début de mon récit, il n'existait pas un, mais plusieurs louis de valeurs différentes. C'est vrai que les plus grosses pièces servaient à la table du jeu du roi, ou ce n'est qu'une pure légende, le quadruple louis, ou l'octuple louis, ou le louis dit.
Oui, tout à fait. En fait, ce n'est qu'une légende, Stéphane. Une légende forgée, si je puis dire, par les numismates au XIXe siècle, pour expliquer ces très grosses pièces qu'ils ne comprenaient pas. Et puis, une légende qui est devenue, j'allais dire, un argument commercial pour ceux qui les vendent. En réalité, les pièces de 8 et 10 louis, qui sont réellement somptueuses, il faut les voir comme des réalisations prestigieuses, et c'est même encore plus beau, offertes à de grands personnages, à des souverains étrangers, à des princes de sang, à des ambassadeurs. C'était très difficile de fabriquer d'aussi grosses pièces, et le but, c'était de les produire pour montrer l'excellence et le goût français.
Et est-ce que ça a marché? Est-ce que la qualité de ces pièces a vraiment servi au rayonnement de la France par-delà les frontières?
Ah oui, tout à fait. Les machines utilisées par Jean Varin produisent des pièces de monnaie d'une qualité exceptionnelle. La mécanisation totale de la fabrication qui est mise en place avec les laminoirs pour aplatir les métaux, avec des coupoirs pour couper des pièces très très régulières, avec des balanciers pour frapper les motifs, font qu'avec cela, la France fabrique incontestablement les plus belles pièces du monde et est reconnue dans toutes les cours européennes pour cela.
Un dernier mot, Jérôme Jambu, ça vaut combien une pièce? Parce que pour les collectionneurs...
Stéphane, on a quelques octuples
louis d'or. J'ai vu la collection de la Monnaie de Paris. Il y a la Bibliothèque nationale de France et la Monnaie de Paris qui ont. C'est les deux grandes collections des pièces de monnaie françaises. Mais ça vaut combien au marché, si je puis dire, de la numismatique? Voilà.
Alors, les louis d'or de Louis XIII, vous l'imaginez, sont très recherchés et collectionnés parce qu'ils sont symboliques et puis très esthétiques. On trouve encore beaucoup de ces louis. Parce qu'on en a frappé des centaines de milliers, et pour un louis d'or, eh bien Stéphane, vous pouvez débourser entre 1500 et 3000 euros selon la qualité de la pièce.
Idée cadeau par contre, mon anniversaire qui arrive, Stéphane.
Mais si vous vouliez une 10 louis, il faut savoir quand même que c'est la pièce française la plus rare, la plus prestigieuse et la plus recherchée en France, et les derniers exemplaires aux enchères ont frôlé les 300 000 euros.
Ah oui, quand même.
Ça, c'est du beau cadeau. Hein.
Ah oui, quand même.
Ah, ouais, là, ça, c'est beau, là. Ça. Ouais. On va voir combien vous m'appréciez.
Malheureusement. Mais écoutez, pour un prochain louis. Merci en tout cas, Jérôme Jambu, pour continuer à s'instruire sur les monnaies anciennes. Je recommande à nos auditeurs la lecture de votre livre « Trésors de monnaies espagnoles » qui est disponible aux éditions de la BNF. Voilà, on a un lieu d'histoire aussi, il faut s'y rendre. Hein. Absolument, c'est absolument magique. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont fait la monnaie, au sens propre. Après Crésus et Louis XIII, vous nous brossez à présent, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un homme dont on ne sait même pas s'il est un homme ou plusieurs hommes, ou un homme et plusieurs femmes.
C'est vrai.
Son nom, Satoshi Nakamoto, c'est lui. Enfin, lui, c'est cette chose qui est l'inventeur du Bitcoin.
Oui, et puis vous dites son nom, faut le dire vite, Stéphane, car non seulement c'est un pseudo, mais en plus, comme vous dites, on ne sait pas, 12 ans après la création du Bitcoin, la première donc des crypto-monnaies, qui vient de passer le seuil des 50 000 dollars, si le mystérieux Satoshi n'est pas carrément un groupe de personnes. 12 ans que la communauté crypto, et au-delà tous les journalistes économiques, cherchent à démasquer le créateur du Bitcoin. Il nous faut déjà rappeler ce qu'est le Bitcoin et la philosophie qui a présidé à son invention. Une philosophie révolutionnaire. Car oui, si aujourd'hui le Bitcoin est devenu un actif spéculatif, à la base il a été conçu pour court-circuiter les banques, pour qu'on puisse acheter en ligne sans avoir à passer par un intermédiaire bancaire. Et oui, Satoshi est un crypto-anarchiste. Sachant qu'il possède environ 980 000 Bitcoins, ça fait de lui le plus riche révolutionnaire au monde. Après vous, bien sûr, Stéphane, qui bien souvent arrivait en réunion en fredonnant
« Groupons-nous et de Pardon.
Bref, ce qu'on sait avec certitude, c'est que Satoshi Nakamoto a commencé à travailler sur le Bitcoin environ 2007, avant de publier la description du Bitcoin le 31 octobre 2008, soit son acte de naissance, au lendemain de la crise financière. Un livre blanc qui détaillait le fonctionnement de cette nouvelle monnaie. Fonctionnement que je crois nécessaire d'essayer de vous rappeler cet après-midi. Rassurez-vous, je ne vais pas entrer dans les détails, surtout que Stéphane vient à peine d'apprendre que Lydia n'était pas seulement le prénom de sa troisième femme de ménage du mercredi, mais aussi une application de transaction bancaire. On va faire simple. Accrochons-nous. Satoshi Nakamoto est le concepteur de la première base de données construite avec une blockchain. Il résout le souci de la double dépense pour une monnaie numérique en utilisant un réseau pair à pair.
Qu'est-ce que vous dites ?
Oui, bon, je sais. Voilà à quoi ressemble votre cerveau actuellement, Stéphane. Pardon. Pour faire très simple et essayer de décrypter tout ça, Satoshi publie un logiciel qui permet, en codant, de créer des bitcoins, sécurisés par le fait même que les mineurs qui les extraient de la blockchain sont rémunérés pour le faire.
Qu'est-ce que vous dites ?
Bon, oui, alors pour faire extrêmement simple, le gars avec le pseudo japonais rigolo qu'on connaît pas, là, voyez, il dit les banques, c'est cacaboudin, il invente une version de l'argent, mais électronique. Bref, Société Générale, nul, bitcoin, bien.
Ah, bah oui.
Bravo, Stéphane. Donc, en 2009, Satoshi lance le bitcoin. Il se présente à l'époque comme un homme japonais de 35 ans. Il reste actif quelques mois, accumulant du bitcoin, mais soudain, il disparaît. Pile au moment où David Castello-Lopez se lance sur YouTube. Je dis ça, je dis rien. Ce qui est sûr, c'est que ces 980 000 bitcoins n'ont jamais bougé. S'il est vivant et qu'il veut les vendre, il pourrait, au prix du marché actuel, en obtenir presque 40 milliards de dollars. Soit deux fois le PIB annuel des États-Unis d'Amérique. Ironique quand on sait qu'en 2010, lorsqu'une poignée de commerçants a décidé d'accepter le bitcoin, la première transaction a concerné une part de pizza qu'un développeur nommé Laszlo Agnek a payé 10 000 bitcoins. Un choix qu'il n'a pas eu à regretter, puisqu'aujourd'hui, pour le même prix qu'une calzone, il aurait pu se payer 6 Airbus à 350. S'il daignait sortir de l'ombre, Satoshi Nakamoto pourrait d'ailleurs intégrer le classement Forbes des plus grandes fortunes mondiales. Il serait juste derrière Jeff Bezos. Mais il est pudique, mon Satoshi. Est-il seulement japonais, d'ailleurs ? En fait, certainement pas. La qualité de son anglais et l'absence totale de publication en japonais sur ses commentaires de code a montré qu'il pourrait plutôt être un sujet de sa majesté. Ou en tout cas, quelqu'un parlant très bien anglais sans accent.
I don't know if few people can really grasp how well I speak English.
Quelqu'un qui parle anglais parfaitement, qui possède de la thune et qui est un peu solitaire et chelou, mais qui cela pourrait-il bien être ? L'étau se resserre autour de Satoshi, ou plutôt devrais-je dire Satoshi New. Mais patience, patience, car les pistes sont nombreuses. Les geeks dépourvus de vie sexuelle qui ont pris le temps d'analyser ses périodes d'activité en ligne estiment qu'il vit en Europe. En 2010, il lègue le contrôle du code source et de la clé d'alerte réseau à un certain Gavin Adressen, un nom pas très japonais non plus. Gavin Adressen lui-même dit ne pas connaître l'identité de Satoshi. Des Français aussi se lancent dans l'enquête. Pour Jean-Paul Delahaye, mathématicien, informaticien et professeur à l'université de Lille, il est probable que derrière le nom de Satoshi Nakamoto se trouve plutôt une personne ou une organisation américaine. Si on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto, on sait en revanche qui il n'est pas. Il n'est pas Dorian Nakamoto. Si vous tapez Satoshi sur Google, c'est sa photo qui apparaît. Il a presque 70 ans, il vit à Los Angeles avec sa maman et il aimerait qu'on arrête de l'emmerder. Je m'appelle Dorian, j'ai 70 ans, je vis à Los Angeles avec ma maman et j'aimerais que vous arrêtiez de me faire chier. Sur la shortlist de ceux qu'on soupçonne d'être vraiment Satoshi Nakamoto, Craig Stephen Wright, un informaticien australien qui clame, lui, être l'inventeur du Bitcoin, mais qui peine à le prouver. Plus sérieux, le profil de Nick Szabo, entre 1995 et 2005, il aurait développé une monnaie appelée BitGold et rédigé des articles scientifiques sur la monnaie numérique. Il aurait pu être en position de l'inventer, selon le New York Times. Nick, lui, dément par un tweet. Pas Satoshi, mais merci, dit-il. Et puis, il y a le cas de Hal Finney, développeur de jeux vidéo, qui est le premier homme à avoir reçu une transaction en Bitcoin de la part de Satoshi Nakamoto directement. De là à imaginer qu'il est Satoshi lui-même, il n'y a qu'un pas. On ne saura jamais, puisqu'il décède en 2014 de la maladie de Charcot. Fait étrange, relevé par un expert, l'époque où ses capacités physiques commençaient à diminuer correspond grosso modo avec celle où Nakamoto a commencé à disparaître. Bon, en fait, on n'en sait toujours rien. On est tellement paumés que certains ont émis l'hypothèse que Satoshi soit en fait Elon Musk. D'autres ont la quasi-certitude qu'il s'agit d'un groupe de personnes, ce qui expliquerait que l'argent n'ait jamais bougé. D'après un expert, il pourrait s'agir de 4 ou 6 personnes qui se seraient partagées chacune un morceau de la clé. Et l'un d'entre eux serait mort, le plus probable étant que ce soit Hal Finney, dont on a parlé. L'autre hypothèse est que l'un des deux membres du groupe détient la clé d'Hal Finney et fait du chantage aux autres en demandant plus que les 2/6 du total. Sale histoire en tout cas. Satoshi fascine, la preuve, une statue à son effigie est en passe d'être érigée à Budapest. Son visage aura une surface réfléchissante, de telle sorte que les spectateurs pourront trouver, je cite, « leur propre reflet ». Clin d'œil à la philosophie du créateur du Bitcoin, selon laquelle finalement nous sommes tous Satoshi. Non les geeks, on n'est pas tous Satoshi, en revanche, il y en a un qui l'est vraiment, et qui est là, tout près. Il nargue avec sa fortune. Bien sûr, son accent anglais, sa timidité, sa grosse Breitling Navi Timer auraient dû nous mettre la puce à l'oreille, the flea to the ear, comme on dit chez vous. Mais nous n'avons rien vu aujourd'hui, il est riche, et nous, on n'a plus que nos yeux pour pleurer.
Kleenex ou Sopalin ?
Oh, on se fout de nous en plus. Je suis sûr que c'est vous.
Moi, je suis sûr que c'est du mot, évidemment.
Signor Satoshin.
Satoshin. Merci Mathieu. Oh, c'était même du 100% vrai, là.
Oui, quasiment. À part la piste portugaise qui, elle, n'est pas vraiment... Oui. Le New York Times n'est pas d'accord avec cette piste.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est temps, Stéphane, de dire adieu à Satoshi Nakamoto. C'est con, on l'aurait rencontré avant, on serait riche. Enfin, plus riche encore en ce qui vous concerne, Stéphane. On entre dans la dernière demi-heure d'historiquement vôtre. Et vous savez forcément ce qui s'y passe dans cette demi-heure.
Je sais qu'elle se file désormais par un moment que vous adorez.
Oui.
Qui est la lutte finale, une lutte avec des questions d'histoire, des vraies, dans laquelle vous avez visiblement déjà déposé les armes.
Oui, sauf que j'ai gagné hier.
Mais oui, mais hier est une exception.
C'est vrai. D'abord, remontons aux origines de ce qui fait notre quotidien avec notre duo, toujours bien armé. Le Saint-Nectaire, Olivier Poul, c'est un fromage qui est une passion chez vous.
Oui, oui, franchement, moi je préfère les Saint-Nectaire au bitcoin, vous voyez, c'est plus concret, au moins on peut l'avoir
avec
dans
des
le frigo.
Vous achetez beaucoup de Saint-Nectaire.
Le déguster, vous savez qui l'a créé. Ça,
on sait à quel saint vous vous vouez. Mathieu, c'est Saint-Tropez, vous c'est Saint-Nectaire.
Exactement.
Et on commence, les amis, par remonter aux origines du test de Rorschach.
Tout à fait, exactement. Le test de Rorschach, c'est peut-être le plus célèbre des tests psychologiques du monde. Je me demande même d'ailleurs si ce n'est pas le seul test psychologique célèbre. Et c'est sans doute célèbre parce que le principe, il est à la fois super simple et super original. On montre des images abstraites qui sont en fait des taches d'encre symétriques. On les montre à des gens en leur demandant ce qu'ils voient. Et comme tout le monde n'y voit pas la même chose, l'idée, c'est que les réponses des gens donnent accès à des traits profonds de leur personnalité qui, sans ça, resteraient inaccessible. Ces images abstraites, c'est toujours les mêmes. Il y en a 10. Et je dois dire que je me suis fait un tout petit peu peur en préparant cette chronique parce que j'ai regardé les 10 dessins et pour chacun d'entre eux, sans exception, je me suis dit, tiens, on dirait une zézette de fille. Alors que franchement, je suis pas obsédé comme personne. Enfin, au moins, je croyais pas l'être jusqu'à présent. Mais peut-être que le test de Rorschach a trahi le fond de mon âme. Il a peut-être aussi montré le fond de l'âme de Clémentine Portier-Kaltenbach, d'ailleurs, qui, en passant devant mon bureau tout à l'heure, a vu le test posé et s'est exclamé « C'est un utérus, non ?» Vous voyez ? Donc je pense qu'en fait, je ne suis pas le seul. Mais alors, qui a eu cette idée du test de Rorschach ? Vous allez me dire naïvement « Ah ben ça doit être Rorschach ». Eh bien, vous aurez parfaitement raison. Voilà. Hermann Rorschach, il est né à Zurich en 1884. Il est suisse, donc. Et c'est le deuxième scientifique, en moins d'une semaine, dans mes chroniques, à être un beau gosse des ténèbres, quoi. Il ressemblait vraiment beaucoup à Brad Pitt. Et d'ailleurs, Internet est plein de photos de Brad Pitt à côté de Rorschach, avec les gens qui disent « Vous avez vu comment c'est des sosies ? C'est fou, quoi !» Hermann, il était intéressé, en gros, par deux choses. L'art, à cause de son papa prof de dessin, et la psychiatrie. Il a étudié la psychiatrie, et il l'a étudié à un moment où on venait d'inventer la psychanalyse. Oh là là, truc de ouf, il existe un inconscient caché qui sous-tend nos douleurs et nos actions, inconscient auquel il est difficile, mais pas impossible d'accéder. Et Hermann, il s'est dit que peut-être il y avait un truc à jouer avec des dessins abstraits. Il a concocté ses dessins à l'encre, il a commencé doucement à les montrer à des patients dans des unités psychiatriques, et petit à petit, il s'est rendu compte qu'il y avait des pattern, ce mot anglais si pratique qu'on a toujours du mal à traduire exactement en français. Des tendances, vous voyez ? Des motifs, ça fait tout de suite papier peint. Des patterns, c'est-à-dire que par exemple, les schizophrènes avaient tendance à donner plutôt certaines réponses, les dépressifs en donnaient d'autres, et les gens qui n'étaient ni schizophrènes ni dépressifs, d'autres réponses encore. Et le grand travail d'Hermann, ça a été de codifier ces réponses, de les codifier pour qu'elles puissent être utilisées pour diagnostiquer des patients. En 1921, il a sorti son livre avec les 10 taches d'encre et très tristement, il est mort l'année suivante, à 37 ans, de l'appendicite. La beauté physique, on le voit, n'est pas une garantie contre les microbes, mais si au cas vous auriez un doute. Mais
par chance, on ne meurt plus non plus d'appendicite aujourd'hui.
C'est vrai, tout à fait. On peut couper à temps, tout à fait. Le test d'Hermann, lui, il a continué à vivre sans lui, au point que c'est devenu un des tests les plus administrés au monde par les psychiatres. Et c'est là que ça a commencé un petit peu à déconner, si je peux dire, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à l'utiliser n'importe comment pour décider, par exemple, dans des entreprises, s'ils embauchaient des gens ou pas. Ah, vous avez vu une chauve-souris ? Ah ben non, bah désolé, vous n'aurez pas le poste. Mais j'ai fait un PhD. On en a rien à foutre. Vous avez vu une chauve-souris. Ça montre que vous êtes pas bien dans votre tête. On a utilisé le test pour tester des nazis en espérant trouver la clé psychologique de leur méchanceté. Et le truc, c'est qu'à mesure que c'est rentré dans la culture populaire, c'est un petit peu sorti des hôpitaux et du monde sérieux de la médecine. Et pendant un bon moment, le test de Rorschach, ça a été considéré comme de la pseudo-science qui valait rien du tout. Alors aujourd'hui, c'est encore controversé, mais il y a quand même une grosse étude, il y a une dizaine d'années, qui a montré que si on l'utilise correctement, ça marche, et ça marche même très bien, notamment pour diagnostiquer certaines maladies mentales. Alors moi, le test de Rorschach, j'en ai fait une version en ligne, après avoir fait mon truc personnel, une version à choix multiples, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas taper ce qu'on pensait, il y avait juste, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt si ou ça. Or, aucun des choix multiples n'était la ZZ des filles. Voilà, il n'y avait pas de ZZ des filles. Donc, j'ai dû cocher d'autres choses. Et là, ça m'a dit que j'étais quelqu'un de tout à fait normal. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Je vous les ai apportés, le test de Rorschach ici, je ne sais pas ce que vous...
Chauve-souris.
Ouais. Donc, c'est les nazis qui veulent des chauves-souris, c'est ça.
Voilà, on en a une autre ici. Qu'est-ce que vous pensez de
Utérus.
Ça Utérus.
Père Noël.
Père Noël.
Ouais, deux Père Noël.
Deux lutins qui se font des bisous.
Qui se tiennent la main.
Tout à fait. Vous êtes tout à fait dans les cordes, je crois. Je vous en fais une petite dernière.
Des danseurs, ça. Non.
Des danseurs.
Des danseurs de tango. Avec un papillon au milieu.
Un papillon.
Oui. Alors on voit que vous ne voyez pas l'image dans son ensemble. Vous voyez des détails de l'image et ça veut dire beaucoup sur vous. Je vous dirai après ce que ça veut dire.
C'est pas brillant. Stéphane.
Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo. Sur YouTube, Dailymotion et sur le site, évidemment, europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, dans cette dernière demi-heure, nous revenons aux origines des inventions qui font notre quotidien. Et une invention dont vous ne pourriez vous passer, Olivier Poul, c'est le Saint-Nectaire.
Ah oui, sur le plateau de fromage, moi j'en prends toujours. Je ne sais pas si vous êtes comme moi.
Je suis comme vous.
Mais s'il y en a, j'en prends. J'adore ça. C'est un très très bon fromage. Alors le Saint-Nectaire, c'est un fromage d'Auvergne, né au Moyen-Âge, comme beaucoup de fromages d'ailleurs. Alors à l'époque, il ne s'appelait pas Saint-Nectaire, il se nommait le fromage de Gléau. Tout simplement parce que le gléau, c'est la paille de seigle sur laquelle il était posé pour l'affiner. Et c'est un fromage qui était élaboré souvent par les femmes et qui servait essentiellement à payer les seigneurs. Donc vous savez, dans les fermes, on devait donner une partie de sa récolte, du lait des vaches au fromage, aux seigneurs. Et on payait à l'époque en fromage de gléau. Au XVIIe siècle, le maréchal Henri II de Saint-Nectaire, et qui ne s'écrit pas Saint-Nectaire, mais Saint-Nectaire en un mot, en fait la promotion jusqu'à la cour du roi Louis XIV, qu'il apprécie beaucoup. Et c'est Saint-Nectaire qui va d'ailleurs donner en quelque sorte son nom à Saint-Nectaire. Maintenant, il y a un village qui s'appelle le village de Saint-Nectaire. Mais à l'époque, ça ne s'écrivait pas comme ça, c'était Saint-Nectaire.
Il possédait le château de la Ferté-Saint-Aubin.
Voilà. Au XIXe siècle, la recette va être améliorée grâce au retour des soldats auvergnats qui ont participé aux campagnes militaires et qui sont notamment allés en Hollande où ils se sont beaucoup inspirés des techniques d'élaboration du fromage là-bas. Donc une petite parenté entre certains fromages hollandais et le Saint-Nectaire. Et puis l'exode rural au début du XXe siècle va faire baisser malheureusement beaucoup cette production qui va se relancer dans les années 1950 avec l'appellation d'origine contrôlée qui arrive en 1955. Mais, et là, c'est mon petit coup de gueule du jour. Malheureusement, comme pour beaucoup de fromages, l'appellation d'origine contrôlée maintenant, appellation d'origine protégée, malheureusement ne détermine pas et ne vous garantit pas un niveau de qualité. Parce que le Saint-Nectaire, qui traditionnellement devait absolument être fait au lait cru.
Le cru, bien sûr, à cause de l'Europe, c'est.
Pratiquement plus aujourd'hui. La grande majorité des Saint-Nectaires que vous trouvez, notamment dans la grande distribution, c'est du lait pasteurisé ou thermisé.
Le lait cru, c'est
chauffé mais moins fort. Et puis le lait cru, il devient de plus en plus rare. Il y a quand même un petit indice qui peut vous aider lorsque vous allez acheter un Saint-Nectaire, c'est d'avoir déjà une petite pastille verte sur le Saint-Nectaire. Ça détermine qu'il s'agit d'un Saint-Nectaire fermier, donc souvent au lait cru, pas toujours, mais souvent au lait cru, Saint-Nectaire fermier, qui lui, pour le coup, vous garantit une qualité, alors que le Saint-Nectaire industriel ou laitier, qui n'a pas de saveur, qui a une pâte beaucoup plus, comment dirais-je, caoutchouteuse, et qui n'a pas cette profondeur de goût, quant à lui, bah, vous ne l'achetez pas très cher, mais il n'est pas très bon non plus. Donc, la pastille verte, c'est pour vous garantir un niveau de qualité. Et puis, je vous avais promis une petite recette. Comme on arrive en automne, il y a une association qui marche très bien, c'est le Saint-Nectaire et le cèpe. Et notamment le cèpe cru. Parce que le Saint-Nectaire, il a un petit goût un peu de noisette, un petit goût de sous-bois, un petit goût de cèpe d'ailleurs. Et je vous propose de faire un croque-monsieur Saint-Nectaire et cèpe. C'est absolument simple à réaliser, c'est magnifique. Tranche de pain de campagne que vous beurrez des deux côtés, un beau morceau de jambon, des cèpes coupés à cru, du Saint-Nectaire posé par-dessus, on remet une tranche de pain, on cuit d'abord une première cuisson, si je puis dire, dans une poêle avec un peu de beurre pour faire bien...
Il y a beaucoup de beurre dans cette recette, ça me plaît.
Un peu quand même, pour faire un peu croustiller le pain. Et puis après, on finit la cuisson au four, 5-6 minutes, dans un four bien chaud pour faire couler le Saint-Nectaire au milieu, se mélanger avec les saveurs du cèpe, etc. Et là, vous êtes vraiment dans l'automne.
Tout ça avec beaucoup de modération, un vin rouge pour accompagner.
Oui, et un vin rouge, puisque je vous le disais, on n'a pas le temps malheureusement, mais on pourra faire toute une émission sur les accords fromage.
Parce que Stéphane n'avait pas l'air de savoir.
Ah non, la grande majorité des fromages sont plus à l'aise avec les vins blancs. Mais le Saint-Nectaire, franchement, marche très très bien avec les vins rouges. Vos vieux vins de Bordeaux, par exemple, vous apporterez ça pour mes croque-monsieur. Ça marchera très bien.
Très bien. Merci
c'est
beaucoup.
Noté, Olivier Pouls. Merci beaucoup. On retrouve toutes vos recettes et vos conseils sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et nous arrivons dans la dernière séquence de cette émission. Un nouveau jeu qui, au début, je vais vous dire franchement les choses, ne m'a pas convaincu. Et puis, hier, j'ai gagné. J'apprécie, je commence à apprécier ce jeu. C'est la lutte finale, Stéphane. C'est bien.
Oui, qui est le plus fort en histoire parmi les plus nuls? C'est ça, la lutte finale. Une bataille entre Olivier, Mathieu et David. Une question pour chacun. Et en cas de nécessité, nous départageons avec une question qui se rapproche le plus de la vérité à la fin. Alors c'est parti, Olivier. On commence toujours par vous. À Mexico, en 2017, il y a eu un séisme qui a fait 200 morts. Mais fait étonnant, ça, je suis sûr que vous avez suivi l'actualité à ce moment-là, il a permis la découverte d'un temple aztèque à la gloire, et là c'est complètement dingue, à la gloire du dieu des tremblements de terre. C'est vrai ou c'est faux ?
À la gloire du dieu, y avait-il un dieu des tremblements de terre chez les Aztèques ? Mmh. On sait que la région est sismique. Non, je pense que c'est faux, c'est trop gros votre truc.
Oui, vous avez raison. C'était un temple au dieu de la pluie, Tlaloc. Ouais. David, la question est pour vous maintenant. La chanson « il court le furet
bon, » c'est trop facile,
est une contrepétrie à la gloire de l'abbé Dubois, qui était connu pour être un chaud lapin. Ça, on l'a déjà dit dans l'émission. Mais l'abbé Dubois a fini cardinal alors qu'il ne savait même pas célébrer la messe. C'est vrai ou faux ?
Je dirais, ça paraît complètement impossible de devenir cardinal sans savoir célébrer la messe. J'ai envie de dire oui, c'est vrai, parce que ça a l'air tordu.
Ce fait incroyable a fait dire à Roger Perfitte, le pape est un fin cuisinier qui sait faire d'un maquereau un rouget. On ne relit pas assez Roger Perfitte. Ouais. Mathieu, il y a déjà deux bonnes réponses.
Il a le dos mur.
Ouais, c'est vraiment le dos mur, c'est une grosse pression là pour moi.
Vous avez peut-être vu, Mathieu, Sweeney Todd en 2007, un film de Tim Burton.
Ah oui.
Où Johnny Depp incarne un barbier qui tue ses clients pendant que sa maîtresse se débarrasse des corps en faisant des friands.
Eh bien, très bon scénario.
L'histoire originale se passait à Paris. Vrai ou faux ?
Alors, je vous avoue que ce film, quand je suis allé le voir, je n'avais pas non plus lu toutes les critiques de Télérama avant, donc je ne sais pas, il n'y avait pas de contexte, je ne sais pas si... Je n'ai pas lu cette histoire, en tout cas. Je dirais oui.
C'est l'affaire de la rue des Marmousets. En 1387, un barbier et son voisin pâtissier faisaient exactement la même chose. Les archives criminelles ont été brûlées pendant la Commune de Paris, mais des références à cette affaire ont été retrouvées dans d'autres récits de procès. Alors, puisque vous avez tous les trois donné une bonne réponse, la question qui départage. Et je rappelle, c'est la réponse la plus proche qui remporte la lutte finale. La première Bible imprimée de Gutenberg date de 1455. C'est le premier ouvrage imprimé en Europe. Le papier, c'est du vélin, c'est-à-dire obtenu grâce à de la peau de veau mort-née. Combien il fallait de veau pour une Bible ?
Donc que la peau, un veau, c'est petit, ça peut faire combien en...
Combien de veaux il faut pour faire la Bible, c'est ça ?
Non, pour ce premier exemplaire,
Il y avait beaucoup de pages en plus. Ouais. Ouais, je sais pas, il faut 500 veaux.
Moi, je dis qu'il faut 200 veaux.
200 veaux.
À peu près, hein, à la louche.
À la louche.
Moi, je dis qu'il faut 333 veaux.
333 veaux. Eh bien, c'est David qui a la meilleure
non
réponse.
Oh, c'est David, bravo.
C'est 170 veaux.
Mais oui, mais ça, en fait, je me suis dit à peu près 400 pages, mais recto verso. Ouais.
Mais c'est vrai, c'est
comme
vrai,
ça que j'ai fait mon petit raisonnement.
Est-ce qu'on peut manger un veau mort-né ?
Non, je pense pas. Non,
non voilà, c'est pas comestible. Hein.
Non,
il n'est pas comestible.
Non.
Bon, mais en tout cas, voilà, bravo David.
Bravo David, effectivement, même si le hasard, une fois de plus, a joué un grand rôle dans ce quiz. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il fut riche en émotions. Moi, toute cette monnaie, ça m'a donné le vertige. Bon, vous, Stéphane, vous êtes plus habitué, j'imagine que ça va. Aujourd'hui, trois hommes. La parité vaudrait que demain, on fasse trois femmes, Stéphane ?
Quatre même. Quatre dames qui ont fait tomber la robe. Mais pas comme vous l'imaginez, des nonnes défroquées. Catalina de Erauso, Alexandrine de Tencin
et Isabelle et Federica, deux religieuses italiennes qui ont lâché Jésus pour convoler en juste noces.
Formidable. Comme dirait Patrick Bruel, ce programme est vraiment...
formidable.
Ah oui, il l'est. Hâte de vous retrouver demain. À demain, Mathieu.
On sent que vous n'avez pas envie d'entendre la reprise de Patrick Bruel. C'est bizarre, vous n'aimez pas Patrick Bruel.
J'adore Patrick Bruel.
Elle est très belle, cette reprise. Je voulais vous faire un cadeau. Évidemment, vous accélérez le rythme. Si vous aviez
honte. J'emporte le cadeau pour la maison.
C'est ça. À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.